accès à n'importe quoi dans ma vie. Mais je vais vous présenter François aussi pour que vous puissiez prier pour lui. François était pasteur à l'église de Fermont, dans le Nord. Il était pasteur, combien d'années à Saint-Hyacinthe? 10 ans à Saint-Hyacinthe. Et puis, depuis quelques années, le Seigneur a appelé François à faire une transition. Et donc, il travaille maintenant avec Sam Beck. Sam Beck, c'est le séminaire de notre association. Sam Beck est vraiment un élément clé dans l'avancement de l'Évangile au Québec, non seulement dans notre association, mais dans les autres associations d'Église, parce que c'est une plaque tournante. C'est là qu'il y a plein de liens avec des gens de l'extérieur qui se font grâce à Sam Beck. Et donc, depuis quelques années, François est en train de faire une transition. Il est maintenant directeur des programmes là-bas. Mais Dieu l'appelle à plus que ça encore. Et dans la dernière année même, François commence à avoir de plus en plus de contacts à l'extérieur du Québec, mais aussi au Québec avec les autres dénominations, les autres regroupements d'Église. Et je sais que Dieu appelle François malgré son humilité. C'est un petit homme comme moi, mais Dieu veut faire de grandes choses à travers des personnes comme ça. Et François est un gars humble. C'est pas un gars qui aime se mettre de l'avant. C'est un gars qui aime prendre soin des gens, d'être là pour les personnes. Puis en même temps, c'est un empêcheur de tourner en rond. François, c'est le gars qui, à un moment donné, dans une conversation, dit « Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? » Quand Stéphane puis moi, on fait de la philo pendant une demi-heure, là, à un moment donné, il dit « OK, les gars, faut que ça fasse de quoi, là, ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Et Dieu est en train de se servir de lui dans l'association et à l'extérieur de l'association. Alors, je vous demande de prier pour ce gars-là, pas juste parce que c'est mon ami, pas juste parce que s'il prend bien soin de moi, Dieu va prendre soin de vous, mais parce que Dieu veut faire des grandes choses à travers ce gars-là. Je l'entends parler encore cette année à la retraite. Il comprend de mieux en mieux les enjeux pour le Québec et les enjeux de ce qui doit se passer avec l'Église au Québec aussi pour atteindre les Québécois. Ça s'en vient de plus en plus clair dans son langage. Et donc, Dieu va se servir de lui pour éclairer d'autres personnes autour de lui. J'espère que tu vas pouvoir prêcher après ça. J'aimerais ça prier pour mon ami. D'accord? Prier pour nous. Père, tu m'as béni personnellement. D'une amitié avec un homme qui est en amour avec toi, un homme qui se sait petit devant toi, Seigneur. Un homme qui cherche constamment à entendre ce que tu veux lui dire, Seigneur. J'ai vu à travers les années, Seigneur, cet homme qui était parfois pressé, parfois un peu arrogant, Seigneur, qui n'arrivait pas toujours à entendre ce qui se passait dans le cœur des autres. Je t'ai vu par ton esprit le faire grandir, Seigneur, de plus en plus à l'écoute de ce que tu veux lui dire et de ce que tu veux faire dans la vie des gens autour de lui. C'est beau, Seigneur, de voir ce que tu fais avec un serviteur humble devant toi, Seigneur. Et parce que je le connais, je sais qu'il ne se confie pas dans ses propres forces, mais je sais, Seigneur, qu'il ne se sent pas à la hauteur de l'appel que tu as placé sur sa vie. Alors, je veux te demander, Père, dans ta bonne grâce et pour notre bien à tous, pour l'avancement du royaume au Québec, que ton esprit, Seigneur, soit toujours un guide dans son cœur, Seigneur. Que dans ta grâce, il puisse toujours être rempli de ton esprit. Garde-le, Seigneur, à genoux devant ta parole. Garde, Seigneur, son esprit ouvert pour comprendre les moments, les temps où tu es en train de travailler ici au Québec, Seigneur. Pour voir à l'avance, Seigneur, certains écueils aussi qui nous menacent. Et Seigneur, je te prie tout simplement de toujours faire grandir dans son cœur sa passion pour Jésus-Christ, son amour pour Jésus-Christ, sa reconnaissance pour la croix, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen.
Amen.
Merci, François.
Merci, Yannick. On va assurer que le Boeing que tu viens de faire décoller ne se transforme pas en Cessna dans les airs. L'utilité des histoires à raconter et démontrer par les pédagogues depuis des siècles, et elles font partie de notre patrimoine à nous aussi au Québec. Pensez à quand vous étiez jeune, peut-être certaines histoires vous ont marqué. Des histoires racontées des fois par nos parents ou par nos amis ou par des raconteurs. Même au Québec, dernièrement, Fred Pellerin n'a pas été mis en scène par ces histoires qu'il raconte. Et les gens se déplacent, spectacle après spectacle de ville en ville pour entendre cet homme raconter des histoires portant des valeurs, des pensées humaines. Et ce matin, pourquoi je vous raconte ça, c'est que j'aimerais qu'on se tourne vers l'une de ces histoires que la Bible met en scène, que Dieu a inspirée, une histoire pour nous parler certainement du cœur de Dieu, afin qu'on puisse saisir qui est l'Éternel, un discours aussi certainement qui va mettre en lumière, une histoire qui va mettre en lumière ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est la puissance de la parole de Dieu, c'est ce qui fait qu'elle est en vie. Mais certaines de ces histoires sont parfois si percutantes. Certainement que quelques-uns d'entre vous pourraient penser à Nathan, le prophète qui rencontre le roi David, pour lui parler de deux voisins avec une brebis en question. Et cette histoire va devenir percutante dans la vie de David. Et tant d'autres. Ce matin, nous avons devant nous l'une de ces histoires. Ézéchiel, chapitre 16, pour ceux qui ont une Bible avec eux et voudraient lire le texte. Ézéchiel, chapitre 16, verset 1. Je ne lirai pas ce matin tout Ézéchiel 16 à cause du contexte du temps, mais je vais sélectionner les passages suffisamment grands pour qu'on puisse suivre l'histoire racontée par Ézéchiel, le prophète. Pour vous situer dans le temps, on est dans une période où le peuple de Dieu, Israël, s'est éloigné des voies de l'Éternel et Dieu, par son prophète, cherche à parler à son peuple. Il a essayé des discours directs, des oracles de Dieu, mais en vain. Cette fois-ci, Dieu, dans cette histoire, à travers son prophète, va raconter une histoire. Il va utiliser des images, des métaphores, un style littéraire particulier pour que le cœur de son peuple soit interpellé. D'abord, versets 1 à 8, la mise en scène qui nous rappelle l'état du peuple de Dieu avant l'intervention de Dieu dans leur vie. Et certainement, vous allez voir tout au long de cette histoire que ça s'applique à nos vies aujourd'hui aussi, par application. Et ça peut être cette section qui décrit notre vie avant que Dieu entre dans notre vie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils d'homme, fais reconnaître à Jérusalem ses horreurs. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu eus du pays de Canaan. Ton père était Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, certainement pour purifier. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on était dégoûté de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sein. Et je te dis, vis dans ton sein. Je te dis, vis dans ton sein. Je t'ai multiplié par 10 000 comme les pousses des champs et tu t'es développé. Tu grandis, tu devins une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure poussa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi et je te regardais. Et voici que ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau. Je couvris ta nudité et je te fis un serment. Je contractai une alliance avec toi. Oracle du Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Dieu décrit par image l'état du peuple et par illustration le nôtre, certainement au tout départ pour montrer l'extrême fragilité de notre humanité. Comparé ici à un avorton, à un être qui, dès son départ, n'est pas voulu. Mais Dieu veut exprimer ici certainement la totale impuissance du sort que nous pouvons avoir sur notre propre vie, de notre destinée. On est semblable à un enfant fragile, livré au sort des circonstances qui l'entourent, et pour illustrer ici certainement spirituellement notre état sans Dieu. C'est sûr que c'est un contraste avec l'enseignement culturel aujourd'hui qui affirme, sur la base de ses présupposés, que si Dieu existe, c'est l'homme qui le choisit. Comme si nous pouvions, par nous-mêmes, d'une manière rationnelle, depuis la déclaration de Descartes, « Je pense, donc je suis », c'est-à-dire que je suis au-dessus de la science et je suis en mesure, d'une manière rationnelle, de m'élever au-dessus de cette science-là, eh bien, les philosophes qui l'ont fait sont arrivés à la conclusion que la vie est absurde. Et certains ont vécu conséquemment à cette conclusion-là. D'autres, ne voulant pas admettre l'absurdité de la vie lorsqu'on la rationalise sans Dieu, ont choisi de faire un saut vers une quête non rationnelle, surnaturelle, mais un saut qui ne s'explique pas. Ce matin, j'aimerais plutôt vous faire un saut qui s'explique. Sur une base rationnelle, expliquer la présence d'un Dieu irrationnel qui peut faire toute la différence dans votre vie à travers l'histoire qu'on va continuer de lire ensemble, parce que Dieu se révèle dans cette histoire. Et c'est ce Dieu que j'aimerais révéler ce matin à travers ce récit. La grâce de Dieu qui se révèle. Alors, on a, si on en comprend la révélation de Dieu ici, à notre naissance et à notre plein déploiement, développement comme humain, on est sans Dieu. Et même, on pourrait dire que notre vie sans Dieu est illustrée par une réalité que rien d'autre ne pourrait passer et m'offrir une solution. Mais dans le texte, une solution est présentée. Dieu lui-même passe près de nous, près d'Israël dans le texte ici. Certainement faisant référence ici à l'Exode, lorsque Dieu décide d'intervenir à travers Moïse pour racheter son peuple qui était esclave en Israël, limité aux contraintes et à la folie d'un pharaon qui construisait son empire. Aux prises de ce despote, Dieu vient et arrache son peuple aux mains de ce roi et l'établit dans un pays qu'il lui donne. Il le choisit comme peuple, il lui déverse son amour et en plus de cela, il contracte avec lui une alliance, un contrat dans lequel il s'engage. Et il est illustré ici au verset 8 par un mariage. Couvrir d'un manteau dans l'ancienne alliance était le symbole que l'époux faisait au jour des noces envers son épouse pour illustrer son engagement vers elle, qu'il va la nourrir, qu'il va la chérir, qu'il va en prendre soin. À ce mariage, l'épouse arrive, dans le contexte de l'histoire, bien sûr, nue, c'est-à-dire sans rien. C'est le Dieu, on va voir, qui s'engage avec elle, qui arrive avec quelque chose. Verset 9. Je t'ai lavé dans l'eau, certainement faisant référence dans tout le passage qu'on va lire jusqu'au verset 14, à ce contrat que Dieu fait avec son peuple, mais qu'il fait avec nous aussi en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai frotté avec de l'huile. Je t'ai habillé d'étoffe brodée, chaussée de fine peau, drapée de fin lin, couverte de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et la parure d'une couronne sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu mangeais de la fleur de farine, du miel et de l'huile. Tu devins de plus en plus belle, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais ornée. Oracle du Seigneur, l'Éternel. Dieu donne vie à cet avorton qui allait mourir, livré, certainement en l'espace de quelques heures, tout aurait été fini, mais il a passé et il a donné vie. Il a pris, il a fait grandir, il a développé, il marie, il contracte l'alliance. Et envers son épouse, une fois ainsi en état d'épouse, à l'étape du mariage, Dieu la revêt et la description qui est là est certainement à l'image d'une reine qui est à ses noces. L'époux donne à l'épouse les biens les plus précieux en abondance. La description est fascinante. Rien ne manque. C'est beau. L'époux ne recule devant aucune dépense pour sa future épouse qu'il marie. Les mariages italiens, c'est rien à comparer de ça ici. Et si on comprend le sens spirituel de l'histoire, on ne peut calculer l'engagement de l'époux envers nous qui sommes arrivés dans le contrat avec rien, comme un avortat en train de mourir dans un champ. On n'avait rien pour pouvoir dire que l'on favoriserait notre cause dans ce mariage. On était morts spirituellement. On était séparés. Et Dieu, dans sa justice, aurait pu laisser les choses ainsi. Mais il s'est engagé comme un époux et nous a donné tout ce que la liste décrit ici. Spirituellement, nous avons tout lorsqu'on est l'épouse de Christ, l'épouse de l'Éternel. On ne peut pas calculer la grandeur des richesses et des bénédictions incalculable que Dieu déverse envers nous. Lorsqu'il nous choisit, qu'il s'engage envers nous et qu'il dit « Je te donne mon amour pour l'éternité. » Mais, nous lisons le verset 15, qui commence par un « Mais ». « Mais ». « Mais tu t'es confié dans ta beauté. » Et tu t'es prostituée. Pour bien comprendre le reste du texte, vous devez comprendre qu'ici, dans cette histoire, Dieu va choisir l'image de la prostitution pour l'infidélité de son épouse envers d'autres amants que l'époux. Et le mot prostituée est très fort. Encore plus fort qu'adultère. Parce que le type d'adultère que le peuple de Dieu va faire envers son époux s'image davantage avec le concept de la prostitution que l'adultère. Mais tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué tes prostitutions à chaque passant. Tu es devenu sa chose pour rendre l'odieux de l'objet. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux aux étoffes bariolées et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris les garnitures de ta parure, tissées de mon or et de mon argent que je t'avais donné. Et tu en as fait des images masculines auxquelles tu t'es prostituée. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu leur as offert mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des sacrifices d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, oracle du Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu leur as sacrifié pour qu'ils les dévorent. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, tu les as donnés en les faisant passer par le feu à leur honneur. Au milieu de toutes tes horreurs et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et en train de te débattre dans ton sang. Quelle histoire! Quelle description de ce que Dieu peut ressentir lorsque nous prenons tout ce qu'il nous a confié pour le distribuer à d'autres époux qui passent. Pour se prostituer, c'est-à-dire, dans le texte ici, le peuple d'Israël se tourne vers d'autres dieux, de faux dieux, des idoles dans leur culture qui passent, des idoles qui leur promettent fécondité, des idoles qui leur promettent pouvoir, des idoles qui leur promettent des récoltes, des idoles qui leur promettent toutes sortes de choses qui les attirent. Et ils se tournent vers l'adoration de ces faux dieux en allant à ces autels, ces faux autels. Alors qu'ils avaient connu l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'unique qui s'est révélé à eux, qui les a choisis, qui a fait un contrat avec eux. Si vous lisez les conditions de ce contrat, c'est d'une beauté incroyable. Ils n'auraient pas de maladie. Ils auraient des enfants, leur bétail, la prospérité, une renommée mondiale. Mais ils ont fait fi de cela, étant attirés par les promesses qui leur semblaient palpables des faux dieux pour délaisser l'Éternel. Et Dieu l'a vécu comme un mari qui est trompé. Lui, et la description est claire, il reprend la liste qu'on avait lue au début et il nomme que chacune de ces choses-là a été utilisée pour les amants. Imaginez arriver et voir votre conjoint-conjointe dans une scène avec des dizaines d'amants, vautrer à eux pour leur offrir tous vos biens, votre maison, vos autos, la sexualité, tout est offert à ces amants-là. C'est une scène horrible. Qu'est-ce que l'idolâtrie pour nous aujourd'hui? Tout ce que votre cœur désire plus que Dieu lui-même. tout ce que votre cœur, tout ce que vous croyez vraiment dans votre cœur qui va produire une joie en vous, un plaisir de vivre et qui remplace l'époux lui-même qui s'est engagé envers vous. Imaginez que pour pousser encore plus loin l'odieux, c'est elle-même qui paie les amants dans la prostitution. Plutôt que d'être celui qui prend la prostituée et qui paie le montant, ici, c'est la prostituée qui le paye pour montrer que c'est un choix volontaire du peuple d'Israël d'aller vers les idoles. Ce n'est pas quelque chose qui lui a été imposé, loin de là. C'est son cœur qui a couru vers cela. Et notre cœur qui court vers cela. Pour montrer l'importance de l'image de l'histoire que nous racontons, verset 30, on lit « Quelle faiblesse de cœur tu as eue, oracle du Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. » C'est-à-dire, non seulement Israël, tu t'es prostitué, dit Dieu, mais tu étais maître dans l'art de le faire. C'est dur, pas vrai? C'est dur de lire une telle réalité de non seulement ce qui s'est passé il y a bien des siècles, illustré par l'image ici de la prostitution, mais probablement un combat et quelque chose qui se vit à l'intérieur de nos cœurs encore aujourd'hui. Cet automne, mon père est décédé. Mon père est un homme qui vivait littéralement presque dans un bar sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Il y travaillait, il y vivait. C'était là qu'était sa famille, ses amis. C'était sa vie. Quand il est décédé, la propriétaire des lieux, je la rencontrais, et elle me dit, « François, je sais que tu es pasteur. Pourquoi tu n'animerais pas une espèce de service d'au revoir ici, dans les lieux où ton père a vécu si longtemps? » J'ai dit oui. Avec joie, j'y voyais une opportunité. Elle m'a dit qu'elle inviterait tous les clients que mon père a connus. Et je pouvais inviter ma famille aussi à venir. Alors, quelle occasion de voir ma famille, les amis de mon père, et d'avoir l'occasion de leur partager un mot de ce Dieu qui contrôle l'univers et qui désire sauver les pécheurs. Même si mon zèle à l'intérieur de moi était fort, malheureusement et à ma grande honte, j'ai apporté la parole. Mais à la fin de ma présentation, j'étais nettement convaincu que quelque chose en dedans de moi m'empêchait d'aller plus loin. Et dans les 2 jours qui ont suivi, alors que j'étais dans un combat avec mon Dieu, dans mon cœur, il est apparu clair qu'au moment de ma présentation, le désir de bien paraître aux yeux de ces gens-là est devenu plus grand dans mon cœur que de présenter l'Éternel. Ça a été un choc. Comment est-ce que quelqu'un comme moi, qui a connu Christ, qui a prêché la parole, pouvait se ramasser dans une telle situation? La laideur du moment m'a ramené dans Ézéchiel 16 pour me montrer en quoi j'avais été prêt à me prostituer plutôt que d'honorer ce Dieu magnifique qui m'a sorti de l'état dans lequel j'étais quand j'étais sans lui et de ce qu'il m'a confié maintenant que je suis en lui. Cette soif de ma réputation était devenue une idole, une proie arrachée qui me rendait apte à désobéir au Dieu de ma vie, à mon époux, à l'Éternel. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien certainement ce qui est arrivé à Israël. Et on l'a lu au verset 22, on va le relire. Au milieu de toutes tes horreurs et de tes prostitutions, François, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et en train de te débattre dans ton sang. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ma propre condition sans l'Éternel dans ma vie. Une condition qui était vouée à la mort éternelle. Sans Dieu pour l'éternité. J'avais rien. J'avais rien. Je le répète, j'avais rien. Mais maintenant, avec tout ce que Dieu m'avait donné, j'étais prête à le livrer à un autre plutôt que de le faire à la gloire de mon Dieu. La repentance a été douloureuse, mais salutaire, je l'espère, pour bien des années dans ma vie. Mais cet exemple que je vous ai donné, que bien des choses luttaient en moi pour ne pas vous dire, mais j'ai dit, si je lutte, c'est parce qu'il faut que je le dise. Pour vous donner d'autres exemples, d'abord un exemple biblique de ce dilemme que l'on lit dans cette histoire-là pour l'illustrer d'une manière que l'on peut saisir pour nous aujourd'hui aussi. D'abord pour Abraham, ce personnage, le piège d'Abraham était énorme. Il pouvait faire de son fils, celui qui est né de sa chair, certainement une idole familiale, attendue depuis plus de 30 ans. Prometteur pour une lignée qui va peupler la terre. Nul doute que Dieu dit dans sa demande, « Abraham, monte sur la montagne et offre-moi ton fils, ton unique. » Le test était hautement pénible, les amis. Il n'y avait rien de plus précieux pour Abraham dans sa vie, centenaire déjà, que son fils. Et Dieu dit, tu vas l'amener et tu vas le sacrifier. Le but de Dieu était saint. Si Abraham aurait fait de son fils un amour ultime, il aurait agi de manière inadéquate toute sa vie avec son fils. Mais nous savons dans l'histoire, pour ceux qui la connaissent, que Abraham a vaincu. Il a réussi le test. Il a été prêt d'offrir son fils unique à l'Éternel, ayant foi que Dieu savait ce qu'il faisait et qu'il avait la puissance de ressusciter les morts. Dieu lui a dit, « Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes plus que toute autre chose. » Abraham et Sarah ont pu aimer leur fils adéquatement, car leur espoir était en Dieu et non dans leur fils. Vous savez, je connais un leader qui a été influent dans ma vie, dans ma jeune vie chrétienne, qui a abandonné l'Éternel récemment parce que son fils ne s'était pas converti. Un amour trop grand mène un amour inadéquat. Un amour qui devrait être voué à l'Éternel et qui est voué à autre chose mène à des fruits, à des décisions, à des choix qui sont mauvais. Quelle est votre idole? Quelles sont vos idoles? La chose qui vous empêche de croire avec paix et pleine confiance que Dieu vous aime, vous chérit et que cet amour et cette affection de l'Éternel fait en sorte que rien d'autre va venir vous empêcher de lui obéir, de soumettre sa vie, puisqu'il vous a racheté et que vous lui appartenez. Lorsqu'en tant que père, on en vient par des comportements de nos enfants à leur crier après, à se chicaner constamment avec eux, à vivre une irritation qui se perpétue. Nous avons certainement fait de quelque chose que l'on attendait d'eux, une idole qui a remplacé l'Éternel et qui nous empêche de les aimer et de les servir comme Christ nous demande de le faire. Pour d'autres, ce sera la sexualité aujourd'hui, l'aspect relationnel, affectif de l'amour, romantique. Si on en fait un désir ultime, on finit par croire que c'est cela qu'on a besoin et c'est cela qui va nous donner le bonheur et la joie de vivre que l'on recherche. Mais vous serez déçus, tôt ou tard, de cette idole. Mais malheureusement, lorsqu'on l'adore, il arrive des années à faire des mauvais choix et des années perdues. Les hommes cherchent l'amour pour avoir de la sexualité. Les femmes cherchent la sexualité pour être aimées. Dans les deux cas, ça mène à l'échec. L'idolâtrie mène jamais à ce qu'elle prétend vous offrir. Jamais. Seul l'Éternel peut le faire. Et c'est lui qui, lorsqu'il nous demande de l'adorer, nous offre cette paix, cette liberté et ce bonheur qui est dans la quête de notre cœur. Nietzsche a dit qu'en Amérique, Dieu a été remplacé par l'argent. Un philosophe non-croyant. Avez-vous déjà rencontré une personne qui vous dit qu'elle dépense trop d'argent pour elle-même? C'est rare. C'est très rare. Pourquoi l'argent, ce bout de papier coloré, qu'on peut même déchirer sans avoir presque de force, pourquoi devient-il une idole dans nos vies? Parce que dans nos têtes à nous, c'est l'argent qui nous procure de l'importance, de la valeur, de la sécurité, et non pas d'avoir été créé à l'image de Dieu et racheté à grand prix pour le glorifier. Pourquoi Naaman, dans la Bible, encore un personnage de l'Ancienne Alliance, au temps de l'Ancienne Alliance, Naaman, ce chef militaire syrien qui est atteint de la lèpre et qui se fait dire qu'un prophète pourrait le guérir en Israël. Il rencontre ce prophète. Ce prophète lui dit une commande très simple et il serait guéri. Et il réagit d'une manière furieuse. Pourquoi? Parce que toute sa vie, ce qu'il a obtenu dans la vie, il l'a obtenu à travers ses propres efforts. Il s'est battu dans la vie pour obtenir ce qu'il avait. Puis c'est à cause de lui qu'il a eu. Puis il ne se fera pas dire par un prophète en Israël qu'il peut être guéri s'il ne met pas du sien. Parce que dans sa vie, c'était devenu clair que travailler par soi-même, c'est une idole qui dirigeait sa vie. On peut être atteint de cette idolâtrie semblable à Naaman. Où ton idole est reliée à ce que tes capacités te rendent capable de faire. C'est des dons de Dieu. C'est des dons que l'Éternel donne. Mais on peut s'en servir pour la vouer à nos amants. Lorsqu'on fait d'un amour pour le don, un amour plus grand qu'un amour du donateur. Lorsque notre cœur adore celui qui doit être adoré, il trouve, je le répète encore une fois, la paix, le repos et la liberté que notre âme recherche tant. Lisons la conclusion de l'histoire ce matin. La conclusion a été écrite pour nous révéler qui est l'Éternel. Le texte va dire, afin que vous sachiez qui est l'Éternel. C'est qui ce Dieu-là qui fait toute la différence? C'est qui ce Dieu-là qui se distingue de toutes les philosophies, de toutes les religions que l'on rencontre et qu'ils ont tous un même message commun? qui dépend de l'homme. C'est qui ce Dieu-là qui fait volte-face et qui est différent? C'est l'Éternel. Et on va le comprendre en lisant le texte qu'on lit. Toute la section que je saute pour me rendre au verset 59, c'est la destruction d'un jugement qui doit tomber sur Israël par leur non-respect de l'entente qu'ils avaient fait avec lui. Un juste jugement d'un Dieu saint envers lui. Un jugement qui ne sera pas définitif parce que Dieu a contracté une alliance qui ne peut être rompue par notre infidélité. Déjà, ça vous annonce le Dieu que l'on parle ici. Mais un jugement qui pointe vers un jugement qui doit être donné, et on va le lire ensemble dans le texte. Verset 59. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Ce sont les versets qu'on n'a pas lus. J'arrive au verset 60. Mais, malgré ce jugement temporaire et premier que Dieu a déversé envers son peuple, mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. L'engagement de Dieu dans la nouvelle alliance qu'il va contracter avec Jésus-Christ des siècles plus tard est une alliance cette fois-ci qui est éternelle. Le contrat, le deuxième contrat de Dieu envers l'humanité est encore plus extraordinaire que le premier. Et déjà, le premier est incalculable. Verset 61, « Tu te souviendras de ta conduite et tu en seras confuse quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, et je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. Et moi, j'établirai mon alliance avec toi et tu reconnaîtras par cette alliance éternelle offerte à toutes les nations, une alliance éternelle qui ne dépend pas, qui ne repose pas sur notre infidélité, mais sur l'engagement de l'Éternel lui-même, eh bien, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Afin que tu te souviennes du passé, que tu aies honte, afin que tu n'ouvres plus la bouche en raison de ta confusion, quand je ferai pour toi, et c'est le mot-clé ici, quand je ferai pour toi l'expiation de tout ce que tu as fait. Voici le verset, un des versets de l'Ancien Testament qui distingue l'Éternel de tout autre. C'est que dans l'histoire de l'Évangile, ce verset pointe vers l'histoire de l'Évangile. Dans l'histoire de l'Évangile, c'est Dieu lui-même qui vient subir le jugement que nous méritions en tant que peuple, épouse infidèle. Non, mais attends une minute, là. Non seulement c'est lui qui contracte l'alliance, non seulement c'est lui qui nous donne tous les privilèges incalculables, mais en plus de cela, c'est lui qui, à cause de mes infidélités, vient subir sur lui le jugement et c'est représenté par la mort de Jésus à la croix. Il porte le jugement de l'époux du Père de l'Éternel à notre place. Et quand il porte ce jugement-là, il est à la croix nu, dans la honte, avec rien, pour que toi, tu puisses être recouvert, pardonné, réconcilié et adopté dans cette alliance qui est infaillible, qui ne manquera jamais, malgré la grandeur de tes infidélités, et que malgré que le contrat était signé, nous allons rechuter avec des amants. Afin que tu saches qui est l'Éternel. Il n'y a rien de comparable à cette histoire. Il n'y a jamais eu d'autre histoire comme celle-là dans l'humanité depuis 2000 ans. Le Dieu de l'Alliance qui prend sur lui le jugement, la punition de nos infidélités, pour que l'on puisse le révérer, l'adorer comme on le fait dans ses chants ce matin. Et c'est le thème qui est répété par ce prophète dans tout le livre, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel. L'expiation est ce moment de Jésus à la croix, où la faute de l'infidèle est punie pour être remplacée gracieusement par une libération, sans même que ce soit moi qui ai été puni. Est-ce que c'est glorieux? C'est magnifique. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es l'Éternel dans cette histoire, toi qui es l'auteur de l'histoire et le sujet de l'histoire, remplace dans nos cœurs nos idoles par toi, Seigneur Jésus. Que notre amour le plus grand, le plus ultime, soit envers toi, Jésus-Christ, et non pas vers tous ces amants qu'on appelle crainte des hommes, peur d'une apparence, de l'argent, une réputation, une relation amoureuse illégitime, par tout autre amant. Que ces choses que tu donnes soient au service de notre Dieu pour sa gloire et non pas pour le remplacer. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos prostitutions. Et à chaque fois que nos cœurs luttent, rappelle-nous notre enfance. Lorsqu'on était avorton, en train de se débattre dans notre propre sang, sans espoir et sans force, lorsque tu nous as adoptés, lorsque tu nous as engagés dans une alliance éternelle, et que tu as pris le jugement à notre place pour expier nos fautes. Seigneur Jésus, sois honoré par nos vies. Permet que dans nos discussions cette semaine, entre frères et sœurs de la même foi, dans nos petits groupes, dans nos ministères, on se pose la question, quelle est ton idole? Afin de les ôter et de les remplacer par Christ. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.